Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. D'un côté, le royaume de Dieu, identifié avec la vie véritable. Et de l'autre, la géhenne, avec deux caractéristiques, un feu qui ne s'éteint pas et un ver qui ne meurt pas. Alors, puisque l'on parle d'entrer dans le royaume de Dieu, il s'agit d'une réalité qui dépasse notre simple vie mortelle. On parle donc de l'au-delà de la mort. Et cet au-delà est déterminé par notre comportement ici-bas. Nous avons là, de la part de Jésus, une mise en garde contre le péché pour ne pas finir dans la géhenne, mais d'aller plutôt là où Dieu nous attend dans la vie bienheureuse du royaume. C'est un appel à l'intransigeance face au péché. Il s'agit d'un appel qui nous garde de l'indifférence ou de la complicité avec le mal. Mais on peut se poser la question, c'est quoi la géhenne? D'où ça vient cette expression? Qu'est-ce que ça désigne? À l'origine, la géhenne, c'est une vallée de Jérusalem, sur son versant ouest-sud-ouest, la Gehinnom, qui avait une triste réputation. Pourquoi? Parce que c'était là que des juifs idolâtres, dont les rois impies, Akaz et Manassé, avaient sacrifié leurs enfants au dieu Moloch, un dieu cananéen. C'était un endroit particulier de cette vallée, qu'on appelait Tophet, le poil, que les enfants avaient été passés par le feu, c'est-à-dire qu'ils avaient été brûlés vivants. Le roi Josias, qui avait été un grand restaurateur de la religion juive au 7e siècle avant notre ère, mit définitivement fin à ces pratiques abominables aux yeux du Seigneur. Après l'exil, pour montrer leur dégoût de cette vallée, les Juifs en firent le lieu où étaient rejetées les ordures de la ville. Et du coup, il y avait un feu qui était constamment maintenu pour assurer la destruction des immondices, des détritus. Et du coup, dans l'imaginaire juif, dans la représentation juive, on a associé cette vallée à deux idées. Première idée, celle des souffrances des victimes qui y furent sacrifiées. Deuxième idée, celle de la pourriture et de la décomposition. Si bien que cette vallée et cette appellation est devenue l'image par laquelle on représentait le supplice des méchants après le jugement de Dieu. Elle devint le lieu du châtiment des méchants, ce que nous appelons dans la tradition chrétienne l'enfer. C'était un endroit où le feu brûlait sans jamais s'éteindre. Alors quand on lit le catéchisme de l'Église catholique, on trouve cette affirmation de l'existence de l'enfer et de son éternité, dont la peine principale consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut trouver la vie et le bonheur pour lesquels il avait été créé et auxquels il aspire. Alors quand on entend cela, cette désignation de l'enfer ou de Géhenne, quand on l'entend dit par le Christ comme ce qui fait le pendant au royaume de Dieu si l'on n'y entre pas, il n'y a pas d'autre choix, bien souvent, ça suscite en nous des questions, ou en tout cas une incompréhension. La question que souvent on entend, c'est « Mais si Dieu est bon, comment peut-il prévoir un lieu aussi abominable que l'enfer ?» Ou bien « Si Dieu est bon, peut-il se satisfaire que l'une de ses créatures y soit plongée ?» Un père peut-il désirer la perte éternelle de son enfant? Ou encore, à quoi sert une peine qui serait éternelle si elle ne corrige pas? Est-ce que c'est pas du sadisme? Alors, il est bon de poser ces questions, mais pour y répondre, il faut d'abord se défaire de quelques idées fausses. Première idée fausse, l'enfer n'est pas le lieu où un Dieu vexé se défoulerait sur ceux qui ont mis en cause sa loi. L'enfer, on ne peut pas le comprendre comme le lieu ou l'état dans lequel Dieu passerait sa rancœur sur les damnés, ajoutant avec un plaisir sadique une remarque du style « En plus, je vous avais prévenu » pour augmenter la culpabilité. Deuxième idée fausse à écarter, l'enfer n'est pas non plus une espèce de paradis des démons, une sorte de parc d'attractions démoniaques, où les anges déchus s'en donneraient à cœur joie aux dépens des humains damnés. Si vous vous souvenez des représentations du fronton de Notre-Dame de Paris, eh bien elles veulent évoquer les tourments de celui qui a rejeté l'alliance divine, pas les loisirs des démons. Une chose vraiment à retenir, c'est que nous affirmons, nous croyons que Dieu est bon, que Dieu est amour. Eh bien, ça signifie que la réalité de l'enfer, jusqu'à elle, est une conséquence de l'amour et de la bonté de Dieu. Aussi étonnant que cela sonne à nos oreilles, c'est parce que Dieu est bon et c'est parce que Dieu est amour que l'enfer, sans être une nécessité de l'amour divin, est une possibilité réelle. J'espère que vous êtes toujours vivants. Ça fait un moment que je parle, donc il y a peut-être une petite faiblesse qui se fait sentir. Je voudrais pourtant insister là-dessus. Dieu ne prédestine personne à la géhenne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Saint Paul l'affirme dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, au verset 4. Le Christ a acquis le salut pour tous les hommes, et il ne veut en perdre aucun. Il offre à tous le salut qu'il a réalisé. Mais encore faut-il que l'homme veuille bien accueillir ce salut. Le don est offert. Encore faut-il tendre les mains pour qu'il soit reçu et qu'il ne se perde pas. Je vais prendre un exemple vraiment stupide pour essayer d'évoquer la chose. Imaginez que quelqu'un veuille vous servir une tasse de thé. Voilà, il a la théière, il y a du thé dedans, ça va bien. Vous approchez votre tasse, on commence à verser, et vous retirez la tasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, le thé tombe à terre, il est perdu. Ça vient pas d'un problème de la théière, ça vient pas d'un problème de celui qui le verse et qui était prêt à le verser, ça vient de vous qui avez retiré la tasse. Vous avez refusé le don qui vous était fait, et votre tasse va rester désespérément vide. Ce vide est la résultante de votre action, de votre disposition. C'est le retrait de la tasse qui est cause de cette perte et du vide qui perdure dans la tasse. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci, « Pour se retrouver en enfer, il faut une aversion volontaire de Dieu et y persister jusqu'à la fin. » La géhenne est cette situation absurde où Dieu, parce qu'il est Dieu et parce qu'il n'est qu'amour, continue d'offrir son amour, mais cet amour est continuellement refusé. Vous savez, le signe de la permanence de l'amour de Dieu, c'est la continuité du don de l'existence. Dieu continue à assurer l'existence parce que ce qu'il a donné, il l'a vraiment donné. Il ne reprend pas ce qu'il a donné. Le damné n'est pas quelqu'un qui se lamenterait de n'avoir pas connu Dieu ou qui regretterait de ne pas l'avoir écouté et qui se dirait « Ah, j'aimerais me convertir ». S'il y avait une once de possibilité de repentance en lui, Dieu s'en saisirait pour le sauver. Voyez, prenons encore une autre image. Quelqu'un qui dirait « j'ai soif, je meurs de soif ». Et on lui dit « mais regarde, à côté d'eau, tu as une cruche d'eau. À côté de toi, tu as une cruche d'eau. Je ne veux pas boire. » Ah ben, ça va être compliqué. L'amour de Dieu est donné et il est éternellement donné. Mais nous pouvons nous fermer à ce don. Le damné refuse Dieu qui s'est révélé à lui. Et il va produire du coup pour lui-même son propre supplice. Par sa nature, qui était créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne peut s'empêcher de chercher Dieu, que pourtant il rejette, et son âme préfère renoncer à son accomplissement en Christ plutôt que de suivre le chemin de Jésus. Cette âme ressent au plus profond de son être cet amour qu'elle rejette. Elle est torturée par le vide du cœur qu'elle a elle-même provoqué et qu'elle entretient. Alors parfois, on ajoute encore une question, on se demande, mais est-ce que Dieu ne pourrait pas changer leur cœur pour qu'ils se ravisent et pour qu'ils accueillent son alliance? L'amour ne se contraint pas. Trouverions-nous satisfaisant de lobotomiser notre fils rebelle pour qu'il se tienne bien en notre présence? L'amour véritable exclut que l'on viole ou que l'on brise la volonté de l'autre pour le forcer à aimer. L'amour est libre et volontaire ou il n'est pas. Il y a quelque chose qui serait en fait d'un égoïsme suprême et même méprisant de l'autre qui nous ferait envisager l'usage d'un filtre d'amour. Est-ce qu'on peut sérieusement préférer obliger au signe extérieur de l'amour, à la grandeur et à l'émerveillement qui naît du choix libre, quand quelqu'un nous dit « je t'aime ». Il y a quelque chose qui est merveilleux derrière cela. Il m'a choisi, moi. Il a voulu unir toute sa vie à la mienne. Et ce n'était pas obligé, ce n'était pas forcé. Il y a un miracle de la liberté qui s'est engagé, de la liberté qui a accueilli la grâce pour se laisser porter dans sa vocation. Il y a une union de la grâce et de la volonté. C'est le don que Dieu nous fait, le don d'un amour libre, le don de la liberté, car sans elle, il n'y a pas d'amour. Et ce risque que Dieu prend pour que nous puissions vivre le plus grand amour cause aussi ce risque du refus éternel de l'amour. Mais Dieu ne veut pas renoncer à nous permettre d'entrer dans son propre amour, dans sa propre vie. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche où nous entendons cette mise en garde du Christ, non pas tant, on pourrait dire, pour nous effrayer, que pour nous rendre responsables. Parce que vous savez, être responsable, c'est comprendre les conséquences de notre action. Si je fais ceci ou si je fais cela. Le Christ nous rend responsables, nous donne la possibilité d'être responsables. Ne croyons pas, n'ayons pas la folie de croire que Dieu serait moins miséricordieux que nous. Le disciple Jean en faisait lui-même la découverte au début de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. La grâce de Dieu était à l'œuvre plus loin que lui ne l'imaginait, en cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus, sans pourtant faire partie visiblement de leur groupe. Frères et sœurs, prions avec le Christ dans une grande espérance pour le salut de tous. Que tous accueillent ce salut que le Christ offre. Au moment où le sang de Jésus est versé pour la multitude en rémission des péchés, demandons la grâce de haïr nos fautes pour accueillir la grâce qui s'offre à nous. Amen.